Bonjour, au micro Idriss Assedoudia pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo a été tué lundi dans l'est du pays dans une embuscade attribuée à des rebelles Hutu rwandais FDLR. Une attaque qualifiée de terroriste par le président congolais Félix Tshisekedi. Eddy Issango y reviendra plus en détail. Un responsable d'un parti rwandais d'opposition a été tué par balle dimanche au Cap, en Afrique du Sud, où il vivait en exil, a annoncé son parti qui a évoqué un assassinat. Coordonnateur en Afrique du Sud du Congrès national rwandais, le RNC, Seif Bamporiki, 49 ans, a été abattu dans le township de Nyanga, miné par la criminalité. Le motif de ce meurtre n'est pas clairement établi, mais le porte-parole du RNC, Étienne Mutabazi, a indiqué à l'AFP que le mode opératoire rappelé de précédentes attaques à caractère politique visant des opposants rwandais. Les observateurs de la communauté des États sahélo-sahariens, le CENSAD, ont appelé lundi les candidats du second tour de la présidentielle de dimanche dernier au Niger à respecter le résultat issu des urnes et à recourir aux procédures et voies légales pour le règlement de tout contentieux. La commission électorale publie au compte-gouttes les résultats avant de proclamer les résultats provisoires. La Cour constitutionnelle proclamera ensuite les résultats définitifs, pas attendus avant plusieurs semaines. Au Bénin, la Cour constitutionnelle a définitivement validé lundi 3 candidatures pour la présidentielle d'avril, dont celle du président Patrice Talon, et elle a débouté 8 opposants qui avaient déposé un recours. Nous y reviendrons dans quelques instants avec Yacouba Ouédraogo. Plus de 11 000 doses de vaccins fournies par l'OMS contre la fièvre hémorragique Ebola sont finalement arrivées lundi soir par avion en Guinée pour commencer ce mardi la vaccination après la réapparition de la maladie dans ce pays, a constaté un correspondant de l'AFP. L'avion n'avait pas pu se poser dimanche en raison d'épais nuages saisonniers de poussière. La vaccination est prévue à partir de ce mardi à Conakry et en Guinée forestière. Mercredi, 8 700 doses supplémentaires sont attendues en Guinée en provenance des États-Unis. Ebola est également réapparu récemment en République démocratique du Congo. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté lundi en Birmanie pour à nouveau dénoncer le coup d'État militaire, bravant la junte qui a averti les contestataires qu'ils risquaient de périr. Les États-Unis et l'Union européenne ont annoncé des sanctions contre des responsables de la junte et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a promis de prendre d'autres mesures si l'armée utilisait à nouveau la force contre des manifestants. Plus d'un demi-million de personnes sont décédées du COVID ici aux États-Unis depuis le début de la pandémie. Le pays le plus touché au monde en valeur absolue recense par ailleurs plus de 28 millions de cas de contamination selon l'université Johns Hopkins. Ce bilan est déchirant, a déclaré d'une voix émue le président américain Joe Biden lors d'une allocution à la Maison-Blanche. Il a aussi ordonné lundi la mise en berne des drapeaux sur l'ensemble des bâtiments fédéraux. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé un nationalisme dans le domaine de la vaccination, disant « À eux seuls, 10 pays se sont partagés plus de 3/4 des doses de vaccins contre le COVID-19 administrées à ce jour ». De son côté, le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a accusé certains pays riches de saper le dispositif de distribution de vaccins anti-Covid COVAX, destiné notamment aux pays défavorisés, en persistant à approcher directement les fabricants pour avoir accès à davantage de doses. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, Washington, D.C. nos informations, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a qualifié d'attaque terroriste l'assassinat hier de l'ambassadeur italien dans son pays. Le gouvernement congolais accuse les rebelles rwandais des FDLR, Force démocratique pour la libération du Rwanda. Eddy Issango fait le point.
Dans sa déclaration lue sur la télévision nationale, le président Félix Tshisekedi a demandé qu'une enquête soit menée pour que les auteurs de l'attaque soient traduits en justice. L'ambassadeur Luca Attanasio, 43 ans, est décédé à la suite de ses blessures par balle après avoir été transporté dans un état critique en milieu de journée dans un hôpital des Nations Unies à Goma, selon un diplomate de haut rang à Kinshasa. Son chauffeur et son garde du corps ont aussi été tués. Une source de la MONUSCO a révélé que les victimes circulaient dans deux véhicules du PAM sans escorte de la MONUSCO. Le ministre congolais de l'Intérieur a lui indiqué que les services de sécurité et les autorités provinciales n'ont pu ni assurer des mesures de sécurisation particulières du convoi, ni leur venir en aide faute d'informations sur leur présence dans cette partie du pays pourtant réputée instable. De nombreux groupes armés opèrent dans la région.
Au Bénin, la Cour constitutionnelle a définitivement validé trois candidatures pour la présidentielle d'avril, dont celle du président sortant, Patrice Talon, et elle a débouté 8 opposants qui avaient déposé un recours. Yacouba Ouédraogo.
Le 11 avril prochain, les 5,5 millions d'électeurs béninois auront le choix entre le président sortant, Patrice Talon, et deux opposants, l'ancien ministre Alassane Soumanou, du parti d'opposition Force Kouri pour un Bénin émergent, et Corentin Koué, une figure dissidente parmi les opposants. La Cour a débouté 8 opposants qui l'ont saisi pour contester la non-validation de leur dossier de candidature par la commission électorale, car ne disposant pas d'un nombre suffisant de parrainages pour certains. La nouvelle loi électorale impose aux candidats à la présidentielle d'être parrainés par au moins 16 députés ou maires. Or, seuls 6 de ces 159 élus appartiennent à un parti d'opposition. Rekiata Madungu, candidate du parti Les Démocrates, dont le dossier a été rejeté, a dénoncé une fraude au sommet de l'État. 3 membres de son parti ont été convoqués vendredi et lundi par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ils sont accusés d'avoir perçu de l'argent pour recruter des jeunes au fin de saboter le processus électoral, selon leur parti qui dénonce un complot.
Le chef de la diplomatie européenne s'est déclaré lundi raisonnablement optimiste sur la possibilité d'une relance des négociations pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Sa déclaration fait suite à l'entente trouvée avec Téhéran pour la poursuite des inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mohamedou Houmfa.
Un accord temporaire a été trouvé entre l'Iran et l'AIEA pour permettre à l'agence d'assurer un niveau suffisant de surveillance et de contrôle durant les prochains mois. Pour le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, cet accord offre une chance de relancer le processus diplomatique. « Je suis raisonnablement optimiste, mais je ne peux pas assurer un résultat à ce stade », a-t-il déclaré. Selon lui, des contacts diplomatiques intenses sont en cours, y compris avec les États-Unis. En 2015, Téhéran avait signé un accord à Vienne, en Autriche, avec les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, ainsi que l'Union européenne. Un accord visant à empêcher la République islamique de se doter de la bombe atomique avec de strictes limites à son programme nucléaire censé demeurer exclusivement civil et pacifique. La communauté internationale avait en échange levé toutes ses sanctions économiques contre l'Iran. Mais l'Iran a cessé de respecter ses engagements après le retrait unilatéral en 2018 des États-Unis de l'accord par l'ancien président Donald Trump et le rétablissement des sanctions américaines qui asphyxient l'économie iranienne. Le président américain Joe Biden a promis de rejoindre à nouveau cet accord, mais à la condition que Téhéran revienne au préalable au respect de ses engagements.
Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump devra bien remettre ses archives comptables à un procureur new-yorkais. C'est le résultat du rejet par la Cour suprême d'un recours de M. Trump en vue d'y échapper. Des détails avec Abdelrahman Diaye.
Sollicité par les avocats de Donald Trump, la Cour suprême a, sans commentaire ni avis divergent, refusé d'annuler la décision d'un juge fédéral qui avait ordonné au cabinet comptable Mazars de remettre 8 ans de déclarations fiscales et bancaires au procureur de Manhattan qui les réclame depuis des mois. La Cour suprême, qui compte désormais une majorité de juges conservateurs, avait déjà ordonné en juillet 2020 à Donald Trump de transmettre au procureur ces documents. Mais ses avocats avaient réintroduit une nouvelle demande pour contester l'étendue des documents demandés. Le travail continue, a laconiquement réagi le procureur de New York, Cyrus Vance, dans un communiqué. Son enquête se déroule à huis clos devant un grand jury et le procureur démocrate n'a fait quasiment aucune déclaration publique sur sa progression. Personne ne sait quand elle se terminera, ni si elle débouchera sur des poursuites qui constitueraient une première pour un ex-président américain. Initialement centré sur des paiements effectués avant la présidentielle de 2016 à deux maîtresses présumées de Trump, l'enquête examine désormais aussi de possibles allégations de fraude fiscale, fraude aux assurances ou fraude bancaire selon des documents déposés au tribunal.
La Minute Éco, Nanit Taladi.
L'Angola a révoqué la loi interdisant l'exploration du pétrole et du gaz naturel dans les réserves naturelles protégées et riches en espèces menacées. Cette mesure vise à augmenter les superficies exploitables pour doper la production nationale d'hydrocarbures. Mais elle inquiète les organisations de défense de la nature. Selon le ministère du pétrole, les activités de prospection seront autorisées dans 5% des zones protégées et peut-être seulement 3% seront forées. Les revenus du pétrole profiteront aux communautés locales et aux parcs eux-mêmes, explique-t-il. Le Nigeria a signé un protocole d'accord avec le département américain de l'agriculture pour stimuler sa filière de noix de cajou sur 5 ans. La récolte d'anacarde passera à 350 000 tonnes d'ici à 2023 contre 260 000 tonnes actuellement. La capacité de traitement passera à 35% contre 15% en 2020. Le Nigeria est le 6e producteur mondial de la noix de cajou. Son exportation génère plus de 100 millions de dollars par an au PIB du pays. Pour terminer, le gouvernement congolais a lancé les travaux de la raffinerie atlantique Pétrochimie à Futa, près de Pointe-Noire, la capitale économique, grâce à un financement de 300 milliards de francs CFA de la Chine. Elle s'étalera sur 240 hectares et devrait produire 2,5 millions de tonnes par an. La nouvelle raffinerie devrait créer plus de 5000 emplois et produire de l'essence automobile et d'aviation, du gaz de pétrole liquéfié, du gazole, des lubrifiants, du bitume, du pétrole lampant et d'autres produits.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La CAN des moins de 20 ans se poursuit en Mauritanie avec les matchs de la dernière journée de la phase de poule. Le groupe D livre ce soir les derniers qualifiés pour les quarts de finale. Hier, le Maroc a arraché son billet pour les quarts en disposant de la Tanzanie 3-0, s'offrant du même coup la tête du groupe C avec 7 points, suivi par la Gambie qualifiée en battant le Ghana 2-1. Dimanche, dans le groupe B, le Burkina Faso, vainqueur 1-0 de la Namibie, a composté son billet pour les quarts de finale, tout comme la Centrafrique, victorieuse de la Tunisie 2-1. Ces deux équipes rejoignent ainsi le Cameroun et l'Ouganda, qualifiés dans le groupe A. On connaît les différents groupes de la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Le tirage au sort a eu lieu lundi. Le groupe A est composé d'Enimba FC du Nigeria, de l'Entente Sétif d'Algérie, des Sud-Africains d'Orlando Pirates et d'Al Ahly Benghazi de la Libye. Tenant du titre, la Renaissance Sportive de Berkane est dans la poule B en compagnie de la JS Kabylie d'Algérie, du Coton Sport des Garoua du Cameroun et de Napsa Star de la Zambie. Dans le groupe C, on retrouve le CS Sfaxien de la Tunisie, Salitas FC du Burkina Faso, Jaraf du Sénégal et le vainqueur de la rencontre Étoile du Sahel, Yang Bifalos de l'Eswatini. Le Raja Casablanca est logé dans le groupe D avec Pyramide FC d'Égypte, Nkana de la Zambie et le vainqueur du match qui oppose Namungu FC de la Tanzanie à 1er de Agosto de l'Angola. Transfert, l'international camerounais de Montpellier, Ambroise Oyongo, a été prêté jusqu'en juin prochain
au club russe de Krasnodar. Le défenseur de 29 ans, sous contrat jusqu'en juin 2022, a rejoint Montpellier en janvier 2018 en provenance de l'Impact Montréal. Ici en MLS, après deux saisons pleines au Yongo, a perdu sa place de titulaire au profit de l'international serbe Milailo Rištić. Arrivé en janvier 2019, il n'a débuté que 5 des 13 matchs disputés depuis le début de saison. L'international camerounais aux 36 sélections avait été sollicité par le club turc de Hatayspor lors du mercato hivernal.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, plusieurs milliers d'enfants d'au moins 15 écoles présentaient en classe hier matin. Après des publications sur les réseaux sociaux faisant état de la vaccination des élèves contre le Covid-19, c'est ce qu'ont annoncé les autorités qui implorent les parents de renvoyer leurs enfants à l'école. Cet épisode montre le défi que doit relever le gouvernement de Yaoundé pour éduquer le public sur le Covid et les craintes liées au vaccin. Pour discuter de cette situation, Nanit Talani a rejoint le docteur Constantine Tienkou, virologue et hématologue-oncologue pédiatre d'origine camerounaise qui vit en Virginie, ici aux États-Unis.
La première chose que je dois dire, c'est qu'il y a beaucoup de désinformations et mésinformations qui sont propagées par des gens qui sont contre le vaccin du coronavirus. J'ai été mandaté par l'un des producteurs de ce vaccin d'amener ce vaccin dans 10 pays en Afrique centrale. Et je peux vous dire, sans risque de me tromper, il n'y a aucun vaccin du coronavirus à l'heure actuelle en Afrique centrale. Le seul pays dont je connais qui a un vaccin du coronavirus et qui donne déjà à la population, c'est l'Afrique du Sud. Alors, lorsqu'on vous dit qu'on a atteint de vacciner les enfants à Kumba, d'une part c'est un mensonge, d'autre part, ça doit être une agitation provoquée parce qu'il n'y a aucun vaccin de coronavirus au Cameroun à l'heure actuelle.
Comment faire pour sensibiliser les populations sur l'importance du vaccin et puis les rassurer aussi?
Ce vaccin a été produit très rapidement et cela laisse certaines inquiétudes. Les premiers à être rassurés doivent être le personnel sanitaire. Et pour qu'ils connaissent ce que c'est que ce vaccin, nous devons leur dire que c'est un vaccin très efficace, sans effet indésirable majeur. It is safe and very efficient. Et nous devons aussi dire à la population pourquoi c'est safe et inefficient. Au début, quand on produisait les vaccins, on prenait des bactéries entières pour produire le vaccin. Cela engendrait des effets indésirables énormes. Le vaccin du corona est un vaccin nouveau, un blindage entre le génie génétique et ce qu'on appelle la thérapeutique génétique. Le vaccin du coronavirus, on ne met qu'un génome dans le corps de la personne vaccinée et ce génome va aller synthétiser une protéine. Cette protéine va ressembler les protéines qui sont sur la surface du coronavirus. Et nous trompons ton corps, nous trompons le corps humain à croire qu'il a été infecté alors qu'il ne l'est pas. Mais même quand il est trompé, il voit des protéines qui ressemblent au coronavirus, il produit les anticorps. Ces anticorps qui vont aller protéger l'être contre le coronavirus. C'est l'un des vaccins le plus sûr, le moins dangereux qu'ait produit l'humanité. C'est un avancement en science de manière très avancée. La science avance et c'est un vaccin qui fait la fierté de l'humanité.
Le docteur Constantine Tienkou, joint par Nanit Talani.
Abdourahman Dia avec vous. Dans le Washington Forum cette semaine, les Nigériens sont allés aux urnes dimanche pour se choisir un nouveau président lors du second tour de la présidentielle. Ils mettaient aux prises le candidat du pouvoir Mohamed Bazoum et l'opposant et ancien président Mahamane Ousmane. Le sortant Mahamadou Issoufou, qui a bouclé ses deux mandats, sera le premier président nigérien élu à transmettre pacifiquement le pouvoir dans ce pays qui a connu plusieurs coups d'État par le passé. Mais la mort de cet agent
électoraux le jour du scrutin à Tillabéri et d'un autre à Diffa vient rappeler un des défis majeurs qui attendent le prochain président. Nous en discuterons avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Au Sénégal, la commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko ne compte plus de députés d'opposition. L'affaire dans laquelle le député Sonko est accusé de viol par une masseuse connaît donc des développements plus politiques que judiciaires et divise de plus en plus les Sénégalais. Micro-trottoir de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Je manifeste mon soutien à la présumée victime, sans pour autant nier le bénéfice des droits de la défense au présumé violeur. Tout d'abord parce que je considère que le bénéfice du doute doit être accordé à la victime et je considère que les accusations portées à l'encontre de M. Ousmane Sonko sont très graves, puisque ça porte sur le viol. Et le viol, en droit positif sénégalais, est un crime qui porte atteinte à l'intégrité physique de la personne et engendre des conséquences désastreuses à l'encontre de cette victime.
En fait, dans l'affaire Ousmane Sonko, pour dire qu'il n'y a pas de complot, en fait, c'est vraiment se voiler la face. Et juste le témoin qui est allé chercher à Dissar auprès de son lieu de travail, et le monsieur, il a eu le passe-droit grâce à un avocat et un médecin. Et pour vraiment porter plainte, tu as besoin de ces deux éléments-là, un avocat et un médecin, pour corroborer en fait les accusations.
Tout au début, c'était deux personnes de majeures qui avaient une personne qui avait porté plainte à une autre personne du nom de Ousmane Sonko. Et c'est une affaire privée donc, mais qui a eu une tournure politique parce que l'accusé est un député. Que cette justice-là va être une justice équitable, égalitaire, pour que la vérité surgisse au grand jour, et en plus que nos députés aussi prennent en charge le lourd de responsabilité sur le cas de la levée de l'immunité parlementaire.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Depuis quelques années, l'industrie du jouet est en pleine transformation. À l'image de ce qu'ont fait les secteurs des cosmétiques et du domaine capillaire il y a quelques années, aujourd'hui on assiste à une vraie africanisation des jouets. L'idée derrière cette révolution est d'avoir des jouets qui s'adressent en premier lieu à une clientèle africaine et non plus uniquement occidentale. Partons à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, pour voir comment se porte ce marché tenu par des entrepreneuses à poigne. Reportage à Abidjan de Yacine Chio.
Dans les rayons des grandes surfaces d'Abidjan, de nouveaux produits se font une place de choix. Puzzle du continent, jeux d'aventure incarnés, poupées noires, autant de signes forts que le marché évolue. À l'origine de ce changement, des entrepreneuses créatives du pays comme Sarah Koulibaly. Dans son atelier, ses poupées noires sont habillées, coiffées, puis mises en boîte, direction les magasins ivoiriens et les clients du monde entier. Ce matin, dernière inspection avant la commercialisation. La femme d'affaires a vendu plus de 40 000 modèles l'an dernier, de quoi voir plus grand.
Il était important pour nous d'avoir une offre qui s'adapte en fait au panier moyen et à la situation de la majorité des Africains pour pouvoir être distribué partout et ne pas seulement être dans la théorie, mais de se dire qu'en termes de coûts, on peut s'offrir un jouet à 2000 francs, à 3000 francs, en tout cas à moins de 10 000 francs CFA. Si on arrive à correspondre à tous les codes de la grande distribution à l'étranger, il n'y a aucune raison qu'une marque africaine ne puisse pas légitimement être distribuée chez Walmart aux États-Unis ou ailleurs dans d'autres pays.
Si Sarah Koulibaly en est là, c'est qu'elle a su avant tout séduire un public peu représenté dans les rayons.
Moi, j'ai pas connu les poupées noires. Je jouais avec une poupée, mais elle était blanche. On est bien contente de savoir qu'on a des poupées qui nous ressemblent.
Chepe a 10 ans et joue avec des poupées noires depuis toute petite. Une fierté pour sa mère qui n'a pas eu cette chance lorsqu'elle était enfant.
On est représenté en fait par la couleur de la peau et ça fait déjà plaisir. Et de se sentir africaine, de se sentir noire, de se sentir bien dans sa peau, sans complexe. On nous parle toujours de la France, de l'Amérique, et tout ça à l'école depuis longtemps. Et donc là, à travers nos jouets, nos enfants ont le temps de s'affirmer, ont le temps d'être à l'aise en tant que des personnes de couleur.
des jeux et des modèles qui permettent aussi de retrouver du lien familial autour d'une culture commune. Et Raïssa Adzaki l'a bien compris. Il y a 4 ans, elle a quitté un emploi bien payé pour s'occuper de sa famille. Mais très vite, elle se rend compte que les jouets industriels ne reflètent pas son quotidien. Elle décide de créer sa propre marque de dinette avec l'objectif de mieux faire connaître l'identité culinaire ivoirienne et africaine.
Je me suis rendu compte que mes enfants ne connaissaient pas vraiment leur tout ce qui touche à la culture de chez nous. Quoi de plus important de savoir d'où on vient et de savoir ce qu'on produit, ce qui vient de chez nous. Donc c'est vrai, il y avait ce côté amusement, ludique et tout ça, mais par derrière un certain apprentissage.
Ses enfants savent désormais cuisiner manioc et plats en sauce avec les ustensiles du quotidien. Et son entreprise fait déjà des émules. Un succès qui allie savamment business et identité culturelle. Et ce n'est sans doute que le début.
Waouh, t'es trop fort, ton plat.
Yacine Sio et Yoann Gourlet pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, on pourra qualifier cette initiative d'innovation. Sank Business, c'est le nom d'une structure de transfert d'argent créée par de jeunes Burkinabés. Sank est inspiré du père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, un moyen de transfert électronique typiquement burkinabé qui doit aider les Burkinabés selon ses initiateurs. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
C'est ici, dans le quartier huppé de Ouagadougou, que se trouve Sank Business, une société de transfert d'argent mise en place par des jeunes Burkinabés. Ils sont à la tâche. Ce matin, ce client est venu faire une transaction.
Je suis venu pour faire un dépôt. Et si je veux retirer aussi, c'est ici, je passe pour faire mes retraits. Et comme ça coûte moins cher, et ça nous facilite et ça nous aide carrément trop.
Et voilà comment Sank Business fonctionne à travers une simple application.
Lorsque le client vient peut-être pour un retrait ou un dépôt, voilà, nous lui demandons tout juste de démarrer son application Sank. Au niveau de l'application, au niveau du paramétrage, il y a son QR code qui l'affiche et il le fait passer juste au scanner. Une fois scanné, on a toutes les informations concernant le client et à lui maintenant de demander s'il veut faire un retrait ou un dépôt. Et l'application, comme je vous l'ai dit, est non seulement simple, mais elle est très légère. Donc pour la télécharger, vous partez juste sur Play Store, vous la téléchargez, aussi en moins de 30 secondes, vous l'avez, vous créez votre compte en moins de 15 secondes.
Et c'est ce jeune ayant étudié l'informatique aux États-Unis, développeur programmeur, qui est à la tête de cette initiative.
On a un sérieux problème de paiement électronique ici au Burkina Faso. Quand je dis sérieux paiement électronique, un sérieux système de paiement électronique, c'est pas dit que ça n'existe pas, mais sauf qu'il y avait beaucoup de failles. Soit c'est super expensive, expensive, cher quand même. Voilà. On a voulu essayer de travailler, résoudre les failles des différentes compagnies qui existaient, les différentes structures qui existaient, et apporter un meilleur système de transfert, un meilleur système de paiement électronique à la communauté burkinabé.
Pour envoyer de l'argent chez Sank, c'est gratuit. C'est seulement au retrait que la société prélève 2%. Il n'y a pas de grille tarifaire.
On doit permettre aux Burkinabés, notamment la jeunesse burkinabée, de transférer son argent, de retirer son argent à moindre coût, surtout à moindre coût. Et ça c'est Sank, c'est ce qu'on fait ici.
Et il fallait s'inspirer du révolutionnaire Thomas Sankara.
Vous ne savez pas combien de fois dans les rues de San Francisco, quand je dis je suis burkinabé, parce qu'on ne connaît pas le Burkina Faso là-bas, quand tu dis tu es burkinabé, pour ceux qui sont un peu âgés, le peu de personnes qui connaissent automatiquement en fait référence à ce grand homme.
Ces initiateurs sont déjà satisfaits de l'engouement suscité. Au-delà de la capitale, ils espèrent étendre le moyen de transfert électronique à travers tous les pays. La société de transfert d'argent est fiable et sécurisée, rassure ces jeunes qui espèrent qu'ils auront le soutien et l'accompagnement des autorités burkinabè. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show. VOA, vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless.
Le Monde aujourd'hui, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sédoudia avec Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Excellente journée à l'écoute de VOA Afrique.